Court-circuit. Les doigts dans la prise.
De conscience écologique. Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Court-circuit. C'est une émission où on parle d'environnement, mais de façon fun. Donc ne vous inquiétez pas, normalement ce sera pas chiant. Cette émission elle est propulsée par le collectif du même nom, donc le collectif Court-circuit, qui est un collectif qui regroupe des gens et des associations qui veulent agir sur l'environnement. Pour m'accompagner aujourd'hui, nous avons Guillaume.
Salut.
Mathilde.
Bonjour tout le monde.
Alex.
Bonjour.
Et moi-même. La thématique du jour, c'est « Faut-il continuer à regarder des vidéos de chats ?» Donc, en fait, on a intitulé ça « Faut-il continuer à regarder des vidéos de chats ?» Mais finalement, la question sous-jacente, c'est la question du numérique responsable. C'est un terme dont on entend de plus en plus parler, mais qui reste encore finalement assez flou. Donc, on s'est dit « Tiens, allons défricher ça pendant notre émission ». Et donc, ce que je vous propose, c'est de commencer avec quelques chiffres pour qu'on soit tous raccord. Ma première question, c'est à votre avis, le numérique mondial, ça pèse combien de pourcents sur les gaz à effet de serre?
Entre 4 et 5 pourcents.
Tout à fait. C'est bon, on a un pro, donc le quiz va aller très très vite. Ça pèse 4% sur les gaz à effet de serre et on estime que d'ici 20 ans, ça pèsera 7%. Donc c'est en continuelle augmentation, ce qui est tout à fait logique vu nos rapports déjà individuels avec le numérique. Sur la fabrication du numérique, il faut combien d'eau, de produits chimiques et de combustibles pour fabriquer un ordinateur. Donc en eau, à votre avis, il faut combien d'eau pour fabriquer un ordinateur?
Ouais, c'est des milliers de litres.
Ouais.
C'est 5000, 6000.
Ouais, je crois qu'un écran de télé, déjà, c'est plus de 2000 mètres cubes.
Une tonne et demie d'eau.
Oh là là,
une tonne et demie d'eau pour fabriquer un ordinateur. 22 kilos de produits chimiques. Et 280 kilos de combustible fossile. Donc voilà, ça vous donne quelques idées sur les chiffres. Avant de continuer, moi j'ai une question, c'est justement c'est l'impact du numérique, d'Internet, et puis le numérique responsable. Je me tourne vers toi, Mathilde, pour commencer ce défrichage.
Alors, je vais également commencer par une question. À votre avis, qui a inventé Internet et quand?
C'était pas moi.
Sinon, je serais pas là. Je serais...
L'armée américaine dans
ouais,
les
je
années...
Je pense qu'on aurait tous tendance à classer ça là-bas.
80.
Alors, c'est un gars qui s'appelle Tim Berners-Lee. Et oui, il n'est pas rentré dans les livres d'histoire. Pourtant, il a quand même inventé Internet. Alors, inventer Internet, évidemment, ça a été théorisé pendant 20 ans. Mais lui, il a inventé le web tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le 12 mars 1989, donc il y a 30 ans. Et en fait, il était britannique. Il travaillait au CERN, effectivement, pas loin d'ici. Donc, bon, Internet, ça a révolutionné nos modes de vie en 30 ans. On ne s'imagine pas revenir en arrière. On n'a par exemple plus de montres, enfin celles qui ne sont pas connectées, vous vous souvenez, celles qui donnaient l'heure. On ne regarde plus jamais où on va parce qu'on fait confiance à nos GPS intégrés. Et il faut dire une chose, quand on a une panne d'Internet, on est complètement démuni. Bref, on est super dépendant. Je me souviens d'ailleurs quand j'étais enfant, on faisait des exposés à l'école en photocopiant les encyclopédies de nos parents. Je ne sais pas si ça vous rappelle aussi quelque chose. Ça semble, la préhistoire pourtant, ce n'est pas si vieux, surtout à l'échelle de l'humanité. Or, comme tu le disais, la fabrication de ces objets électroniques connectés, ça nécessite l'extraction de métaux rares qui entraînent de la pollution, avec l'emploi parfois de mercure, des conditions de travail difficiles, notamment parfois faites par des enfants, des morts. Ça alimente le trafic et certains conflits localement, comme en République démocratique du Congo. Sans oublier, bien sûr, toute l'énergie nécessaire ensuite pour faire fonctionner ces appareils, les data centers, etc. Et la complexité ensuite pour les recycler. Pour vous donner une idée, 6 mails envoyés par jour, ça équivaut à 1 km en voiture en termes de pollution. Donc pour résumer, le virtuel du numérique, ce n'est qu'un fantasme en fait.
Tu parlais de chiffres, justement Alex, on en parlait tout à l'heure sur ces chiffres et cette difficulté.
Ouais, bah, c'est vrai que c'est un peu un casse-tête de trouver des chiffres exacts, parce qu'il y en a plein, et d'autres qui se contredisent, et si on les source, on a plein de trucs. Moi, ce que je retiens, c'est ce que tu disais aussi, c'est que le numérique est majoritaire 4% des gaz à effet de serre dans le monde, mais c'est pratiquement aussi que soit plus que l'aviation civile. Donc,
Et ça augmente.
Donc, c'est pas négligeable. On peut aussi dire qu'un 80% de l'impact environnemental d'un terminal, d'un téléphone, d'un ordinateur, ce que vous voulez, ça se fait à la fabrication. Et seulement 20%, c'est le reste, c'est l'utilisation. En moyenne, il faut mobiliser 50 à 350 fois le poids en matière pour produire un appareil électrique à forte composante électronique. Vous pensez à votre smartphone, mais n'oubliez pas votre télévision qui a un impact bien supérieur. On multiplie par, 10, 20, voire 30, 100 fois le poids de votre smartphone. Et dernier chiffre, c'est la vidéo en ligne, le streaming, qui génère à lui seul plus de 60% des flux de données dans le monde.
Mais du coup, là, on voit comment on en est arrivé là. Mais du coup, Guillaume, sur où on va et cette question du numérique responsable, c'est quoi exactement et à quoi ça sert d'en parler ?
Le numérique responsable. Alors moi, dans le domaine de l'écologie, j'ai appris vraiment à me méfier du terme responsable. On a la consommation responsable, la communication responsable, le marketing responsable et même l'avio-éco-responsable. Bref, pour moi, le terme responsable, c'est comme le terme durable. Ça flirte toujours avec le greenwashing. Donc, on peut se demander si le numérique responsable, ce n'est pas seulement un moyen de rendre acceptable ce qui prend une part trop importante, aussi bien dans nos vies, mais aussi dans le dérèglement climatique. Et je termine juste avec un petit chiffre pendant qu'on y est. Dans un smartphone, il y a en moyenne 50 métaux différents.
Ok, très bien. Eh ben, écoutez, pour continuer nos échanges, je vous propose qu'on passe à la chronique de Guillaume d'Altech, qui nous a préparé une petite chronique en avance sur cette question de l'impact écologique et du numérique responsable.
Bonjour à toutes et à tous. Pour parler de vidéos de chat, je vais parler streaming. Gauthier Rossil, docteur au RMLT et au Centre de Recherche en Design, a écrit un article explication sur l'empreinte carbone du streaming et du transfert de données. Je vous rapporte donc ces explications. Déjà, sachez que si vous regardez une vidéo, la plus grosse partie de votre impact environnemental immédiat est liée à votre consommation électrique. Regarder via une box consomme plus d'électricité que le réseau mobile de votre téléphone portable, par exemple. Par contre, la box possède un avantage. Son impact environnemental dépend très peu de la quantité de données que vous transférez. Vous avez donc, pour simplifier, un forfait jour qui ne bouge quasiment pas. Pour le réseau mobile, c'est le contraire. Cela influe beaucoup plus. Autrement dit, quitte à regarder une vidéo en streaming via votre box, autant la mettre en 4K. Par contre, vous pouvez jouer sur votre consommation en baissant la qualité de votre vidéo si vous la regardez sur le réseau 4G. Pour vous donner les chiffres pour évaluer l'impact un peu du CO2 du streaming et du transfert de données, il faut regarder les data centers, des lieux où sont stockées les données, où on peut accéder via Internet. Les études montrent en moyenne une consommation de 56 grammes de CO2 par heure de streaming. En comparaison, une voiture consomme en moyenne 200 grammes de CO2 le kilomètre. Vous pouvez ainsi comparer à une échelle de grandeur. Nous allons donc parler de la consommation de données, mais l'appareil sur lequel vous regardez les vidéos impacte également. Par exemple, une télé consomme plus qu'un téléphone portable, au vu également de la taille de l'écran finalement. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.
Donc voilà, c'était la chronique de Guillaume. On pourrait donner l'impression qu'on est un peu des vieux cons qui sont dans l'ancien monde. Je pense que c'est important, Mathilde, de revenir sur l'intérêt du numérique et sur le fait que malgré tout, ça a changé nos vies aussi de façon positive.
Oui, heureusement, il y a des bons côtés au numérique. Ça simplifie les démarches administratives. On se souvient de la feuille de soins, de la sécu, qu'on n'a plus besoin de remplir. Et puis, important aussi, ça permet des mouvements comme celui de MeToo, par exemple, qu'on pouvait difficilement faire avant, sans oublier les vidéos de chats qui apportent beaucoup de bonheur aux gens, j'adore les chats. Mais le tout, c'est d'en faire un usage raisonnable, évidemment.
Et sur cette question d'usage raisonnable et d'achat raisonnable, peut-être, Guillaume, sur l'achat de matériel ?
L'achat de matériel, il faut essayer déjà tenter de résister aux sirènes de la pub et du marketing, parce que c'est vrai que l'obsolescence programmée, bah pas forcément programmée, mais là c'est plus de l'obsolescence marketing, marketée, où on nous pousse à toujours changer nos appareils, et à avoir la dernière nouveauté, et à nous de réfléchir si on a vraiment besoin de ce nouvel appareil.
On peut acheter des appareils reconditionnés d'ailleurs maintenant.
Exactement.
Bon. Il y a un site aussi qui existe et qui analyse votre propre site internet pour savoir s'il est très consommateur ou pas. Le site s'appelle EcoIndex et c'est assez intéressant pour pouvoir améliorer votre site et de façon parfois très, très simple. Nous, c'est ce qu'on a fait avec notre propre site internet et ça a bien fonctionné. Alex, tu avais aussi des éléments à rajouter ?
Ouais, après, si on peut tout simplement, pour réduire son impact, c'est réduire le temps qu'on y passe. Et après, je vous rejoins pour lutter contre la pollution numérique, c'est aussi faire avoir une meilleure... Utiliser d'abord moins d'objets informatiques et les faire durer plus longtemps, quoi.
Ouais, je rebondis un petit peu sur ce que tu dis. On peut se questionner sur les usages du numérique dans nos vies. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une montre connectée, d'un frigo connecté ou même de volets roulants qui sont eux aussi connectés ? Est-ce qu'on a vraiment besoin du métaverse, de la 5G, d'être à la fois sur WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, LinkedIn, TikTok et même Snapchat.
Et Netflix, Disney+,
exactement.
Etc.
C'est pas ce qui manque.
En termes de petits conseils aussi, si je peux me permettre, un truc tout simple, c'est vider sa corbeille de mail régulièrement aussi. Ça prend beaucoup de place pour rien. Et puis, il existe, alors je ne sais pas si vous connaissez les auditeurs, un truc qui s'appelle le Fairphone. C'est un fabricant de téléphone certifié commerce équitable, dont on peut soi-même changer les éléments quand il y a besoin, quand ça tombe en panne, et qui est neutre en termes de déchets électroniques grâce au recyclage.
Voilà, plein de petits conseils. Je vous propose qu'on passe à un petit jeu, le petit moment détente de l'émission. Alors, je suis allée chercher les nouveaux métiers du numérique et du coup, je vais vous donner les intitulés des métiers et puis vous allez essayer de deviner ce que font ces métiers-là. Alors, je vais commencer par du simple, par le data scientist.
Il analyse les données.
Ouais.
Il calcule des trucs. Je vais répondre à tout.
Ouais,
temps.
Ouais, tu peux le ressentir à chaque fois. C'est un expert de la gestion et de l'analyse de données massives. Donc c'est vraiment ça sa particularité. L'ingénieur cloud computing.
Il est dans les nuages.
Ouais, mais c'est quoi les nuages ? Les data centers.
C'est ça, les data centers. C'est ceux qui s'occupent des serveurs, non ?
Ouais. Ouais, donc quand il est en charge du déploiement, du stockage, de la gestion des données sur des serveurs qui sont situés en dehors de l'entreprise, donc qui sont situés dans des data centers, ce qu'on appelle le cloud. Le géomaticien.
Ouais, je ne sais pas ce que c'est, mais je ferai ça quand je serai grande. Ça claque.
C'est celui qui manipule les données de géolocalisation.
Exactement, ah, tout oui. À fait. Ah, vous êtes au taquet, c'est bon. Le chef de projet E-CRM, ou ICRM, je ne sais pas comment on dit.
Bah, le tout, c'est de trouver...
CRM, je crois que c'est l'outil de gestion d'une entreprise.
Ça doit être électronique.
Ouais. Ça, d'accord.
Peut-être qu'il est fait à distance.
Tout va bien. Electronic Customer Relationship Management. En fait, il assure le marketing relationnel pour les plateformes numériques d'une entreprise. Donc, en fait, il met en place des campagnes, notamment sur la partie commerciale. Et il fait en sorte de mieux comprendre le consommateur. Quand est-ce qu'il va cliquer ou pourquoi, quels vont être les rebonds derrière les autres clics, etc. etc. Voilà. Donc, designer UX.
C'est l'interface utilisateur.
Ouais, tu peux préciser un peu.
C'est celui qui va faire l'interface humain-machine pour dire quand on clique sur tel bouton, ça fait telle action.
Ça, c'est le designer UI. Ah. Et le designer UX, c'est. Donc là, c'était sur l'interface utilisateur. Et là, c'est sur l'expérience utilisateur. Ouais. Donc en fait, il met de la mise en récit. Donc le fameux storytelling dont on entend parler. Donc en fait, il raconte des histoires qui vont avec pour provoquer une expérience qui soit plus palpitante et faire naître de l'émotion chez l'internaute. Parce que quand il y a de l'émotion, il y a de l'achat.
Il y a de l'achat.
Et il y a des chats, et donc il y a des vidéos de chats. C'est parfait. Je vous propose qu'on termine par des événements qu'on vous conseille. Alex
Moi, je fais partie d'un Ripper Café en Berrieux. Et en fait, il y a plein de Ripper Café un peu partout en France. Et le plus simple, c'est d'aller sur l'adresse www.rippercafé.org et vous trouverez une date et un lieu près de chez vous.
Et puis Mathilde, pour terminer.
Alors moi, ce n'est pas des événements, mais c'est des petits conseils pour les auditeurs. La série Black Mirror, qui a 5 saisons liées sur le thème de la technologie dystopique. Et au musée Confluence de Lyon, il y a une collection des minéraux et roches et il y a des vidéos sur les conditions d'extraction de ces minerais rares qu'on utilise pour les smartphones.
Et Guillaume ?
Moi, je peux vous conseiller la fresque du numérique, dont je serai un néo-animateur, je serai bientôt, donc voilà.
Bientôt animateur de la fresque du numérique qui fait suite aux autres fresques. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver l'émission sur Radio B ou en podcast. Et n'hésitez pas à nous contacter pour nous faire vos retours et nous proposer des nouveaux sujets. Au revoir !
Ciao tout le monde !
Merci. Salut !
Ciao !
Court-circuit !
Les doigts dans la prise.
De conscience écologique.